Retrouvez cette émission en podcast sur notre site www.django.fm.
Et à 19h02, voici un entretien que Mariama a réalisé pour Radio Django de Wassis Diop. Une interview qui va revenir sur sa carrière, mais qui parle aussi d'une certaine rétrospective de l'intégralité de son œuvre. Wassis Diop au micro de Mariama sur Radio Django.
Bonjour Wassis Diop.
Bonjour.
Quelles sont vos premières impressions du festival ? Je vous ai vu émerveillé. Allongé sur l'herbe ici à Lausanne, à profiter du soleil.
Émerveillé parce que c'est vrai que chaque fois qu'on sort de l'Afrique, qu'on sort de cette Afrique brute, mais aussi douce que brute, et quand on vient dans des espaces qui sont complètement opposés à nos espaces, qui sont des espaces crus, des espaces de liberté, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vaquer à leurs besoins, ils peuvent vendre, ils peuvent se coucher, ils peuvent crier. Et quand on vient ici, on est dans un autre univers. Évidemment, moi qui sors de cette Afrique, je suis charmé par ces arbres et qui sont mis à leur place. Donc ça veut dire qu'on sent la notion de la ligne droite. Hein. C'est-à-dire qu'ici, c'est une société où les choses, où la nature est aux ordres. Et je vois l'avantage, finalement, de mettre la nature aux ordres. Et c'est complètement... Chez nous, c'est... Ce n'est pas ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une pagaille. C'est une chose originelle qui a ses raisons d'être. C'est une autre énergie, c'est ça que je veux dire. Mais j'aime beaucoup l'énergie qu'il y a ici.
Est-ce que c'est inspirant pour vous ? Et justement, en parlant d'inspiration, quelles ont été vos premières inspirations en tant que musicien ?
Mes premières inspirations sont plutôt du domaine de la mémoire. Moi, j'ai été très inspiré par mon enfance. En réalité, je peux dire que tout ce que j'ai pu faire vient vraiment de cette enfance. Je parlais de liberté, d'environnement tout à l'heure en parlant de l'Afrique, mais c'est vrai que c'était encore plus vrai quand j'étais petit. Nous avons vécu vraiment dans un univers étonnamment inspirant. Et c'est vrai que j'ai grandi et j'ai été exposé comme tout un chacun soubresauts de nos propres civilisations. Hein. C'est-à-dire que le monde évolue et on sait que c'est une évolution très très puissante, très très forte. Et il faut toujours, chaque fois qu'on se réveille, il faut s'adapter à ce qui se passe. Parce qu'on est tout le temps à réajustement, finalement, structurel même. Tellement on est sollicité de toutes parts par un monde qui va si vite. Mais l'enfance m'a beaucoup inspiré parce que j'ai entendu beaucoup de choses. En réalité, je ne fais que répercuter finalement tous ces sons, que ce soit du vent, que ce soit des portes qui claquent, que ce soit des chevaux dans la nuit, que ce soit beaucoup le vent et beaucoup cette musique africaine qui n'est plus de la musique mais qui est un mouvement sonore, qui est finalement le décor sonore de l'enfance. Et je crois que c'est ça qui m'a poussé dans la musique, je crois. Je pense que c'est ça ma source d'inspiration. Donc pour simplifier, je dirais ma source d'inspiration, c'est mon enfance, vraiment. C'est mon enfance, que je revis encore aujourd'hui.
Et quel est le premier instrument auquel vous avez touché ?
C'est un instrument très primaire, je dirais même primitif, qui s'appelle la guitare, parce que la guitare, elle est très archaïque. C'est un manche avec six cordes. Voilà, et même quand on ne sait pas jouer, quand on passe sa main de la première corde à la dernière corde, on a un son, on a de la musique. Donc je pense que c'est la guitare, parce que la guitare, elle était beaucoup plus facile à trouver qu'un piano en Afrique. Et non seulement nous avons aussi des instruments à cordes, beaucoup d'instruments à cordes, la kora, le ngoni, le kamaligoni, et plein d'instruments à cordes vraiment. Et donc c'est cet instrument-là, mais ce n'est pas seulement l'instrument, c'est aussi ce que j'ai entendu produit à travers cet instrument qui m'a beaucoup fasciné. Ça m'a attiré, j'aimais l'objet, c'était joli, c'était, voilà, je me sentais un peu proche. Et j'ai commencé à jouer en m'amusant.
On est en quelle année ?
Et je ne me souviens plus. Je crois que j'étais élève. Je crois que j'étais en primaire. J'avais un ami qui avait une bourse. Avec sa bourse, il avait acheté une guitare. Et c'est comme c'était un ami que je voyais tous les jours. On jouait souvent dans ma chambre. Et il arrivait qu'il laisse sa guitare là, à ma disposition, pendant une semaine. En réalité, je pense que c'est grâce à lui que j'ai ouvert ce chemin aventureux, ô combien agréable de la musique, qui fait de vous un homme solitaire, parce que pour égayer, illuminer votre propre solitude, vous faites des notes, telles que soient des notes. Et c'est comme ça que petit à petit, on ne s'arrête plus de faire des notes. Et ainsi, on est embarqué dans un processus et dans des habitudes. Et finalement, on devient ce qu'on devient. Et quelquefois, on ne devient rien. Mais moi, j'ai poursuivi vraiment cette histoire qui m'a amené très loin, qui m'a fait faire le tour du monde.
Oui, vous parlez donc de voyages, et j'imagine que ces voyages aussi ont donné lieu à des collaborations nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous citer comme ça les collaborations qui ont été des jalons pour vous ?
Il y a eu une collaboration très importante qui s'est produite parce que j'ai rencontré un musicien japonais à Paris qui était venu pour faire... un musicien qui est venu du jazz et même, je dirais, de la musique classique, mais qui est venu à Paris pour rencontrer des musiciens africains. C'était une époque où ce qu'on avait l'habitude d'appeler la world music à tort ou à raison était très en vogue. Et donc, tout le monde voulait s'ouvrir à cette mode de la musique de tous les horizons. Hein. Et il était venu faire un casting. Il se trouve que je suis venu au studio et on s'est vraiment entendu. Il a dit « Ah, mais c'est toi que j'ai cherché ». On est allé faire des enregistrements à Londres et après on est parti au Japon. Et alors là, il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Très très bonnes conditions. Du Japon, on est allé en Chine. On a fait une belle tournée.
Pardon, ça a donné lieu à un album ?
Ça a donné lieu à un album introuvable que moi-même je n'arrive pas à trouver parce que c'est un album qui est sorti au Japon, qui n'est pas sorti ailleurs parce que c'est une production japonaise. Et c'est la première fois, en fait cette expérience était importante parce que c'était la première fois réellement que je chantais. Parce que moi, je ne voulais pas chanter, je ne sais pas pourquoi. Parce que le chant nécessite un caractère que je n'avais pas. Chanter, c'est difficile. Chanter, c'est se déshabiller. Chanter, c'est enlever tous ses vêtements. Chanter, c'est se révéler aux autres. Et j'avais honte de chanter. Peut-être le fait que j'étais si loin de mes territoires africain et européen, j'étais en Asie, j'ai dit, oh, si on est en Asie, on est tellement loin, personne ne me connaît, je peux crier, je peux hurler, personne ne le saura. Et donc, c'était une expérience très intéressante parce que ça m'a permis de découvrir déjà ma propre voix que je ne connaissais pas et j'ai chanté tout un album que j'ai écrit avec lui. Et là, ça m'a donné des perspectives. Parce qu'au départ, moi, je voulais juste faire de la composition.
Justement, quelles ont été les grandes évolutions à travers votre discographie, qui est quand même très riche? Quels ont été les principaux tournants?
Moi, dans la musique, j'ai essayé de... D'ailleurs, je réécoute un peu mes enregistrements. Des fois, je pense que je suis incroyable, dans le sens où... Pourquoi je suis incroyable? Parce que dans un album, je peux prendre autant de titres que de directions. Ça, c'est vraiment du talent. Mais parce que quand on fait du rock, on est dans une rigueur qui s'appelle le rock, et les choses tournent un peu de la même manière, disons. C'est un peu la même couleur. Quand on fait du reggae, la pompe du reggae est toujours présente. C'est-à-dire, on est vraiment dans un univers musical qui est le même. Et moi, ce que j'ai remarqué par rapport à mon travail, par exemple, je donne un exemple d'un album que j'ai fait il y a 20 ans, mais qui m'étonne jusqu'à présent, comment en 13 titres, j'ai pu rentrer dans 13 choses, mais qui n'ont rien à voir les uns les autres. Mais inconsciemment, j'étais en train peut-être de visiter des formes de musique complètement différentes. Et je ne sais pas comment ma maison de disque a pu sortir cet album. Et cet album qui a marché d'ailleurs.
Parce qu'ils aiment définir, et vous, vous êtes indéfinissable.
Oui, mais en réalité, quand j'ai commencé à enregistrer, quand j'ai composé tous les titres qui devaient... former cet album, je pensais vraiment avoir fait un travail entre guillemets homogène. Mais en réalité, quand je l'écoute des années et des années plus tard, j'écoute du premier titre au dernier titre, mais c'est des univers de musique qui n'ont rien à voir, mais qui existent dans l'absolu. Hein? C'est pas des choses que j'ai inventées, mais en tout cas, c'est des choses que j'ai faites. Mais j'ai fait ça inconsciemment. Mais il se trouve que cet album s'appelle Toro, c'est-à-dire la Renaissance. Hein, c'est marrant. C'est en fait, si je traduis le mot Toro, ça veut dire changer de lieu. C'est pour ça que je dis que changer de lieu, c'est renaître. Et c'est étonnant. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça pour répondre à votre question par rapport à l'évolution. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais évolué dans... En fait, je n'ai jamais... était dans la musique que l'on entend. Moi, j'ai été toujours dans une sorte de repli intérieur. C'est comme ça que je définis l'art. Je suis plus artiste que musicien, en fait. Pour moi, un musicien, c'est quelqu'un qui joue toujours. Et ce n'est pas mon cas. Et moi, j'écris les choses quand j'ai envie de les écrire. Et je ne fais pas que de la musique parce que j'aime beaucoup faire aussi autre chose. Mais en réalité, j'ai passé ma vie à peut-être chercher une voie que je n'ai jamais trouvée. Je ne me considère toujours pas comme un musicien, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, les gens me prennent vraiment pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un musicien. Et je n'ai jamais aimé d'ailleurs m'enfermer dans un métier. Et ça veut dire que j'en ai pas, ça veut dire peut-être que je ne suis pas apte à en avoir, ça veut dire que je ne suis pas fidèle, ça veut dire que je ne suis pas à 100% engagé dans ce que je fais. Ça veut dire plein de trucs, ça veut dire que je suis libre, ça veut dire que j'aime pas les étiquettes, ça veut dire que finalement tout ça n'est rien. Ce sont des moments qu'il faut passer et puis voilà. Et puis... Et aujourd'hui, la question n'est pas encore arrivée. Je suis en train de me poser plein de questions sur la musique. J'ai envie vraiment de...
Vous préparez d'ailleurs un nouvel album, là.
Oui, mais un album en français, qui est une langue extrêmement difficile à exploiter, surtout quand on est africain, parce que les sonorités du français ne ressemblent à aucune langue africaine. C'est la vérité. C'est vraiment, c'est à l'opposé de notre, de nos formes sonores. Et donc, je me retrouve en train de faire un album en français, mais en même temps, le français aussi vient à moi. Et tout d'un coup, je me mets à chanter d'une autre manière. Et moi qui suis dans mon approche très mélodique, je quitte la mélodie pour emprunter des voix inconnues. Et chaque fois que j'avais fini, ce que j'avais entendu m'a plu. Parce qu'au fur et à mesure que j'avançais, je faisais mon expérience. Et donc, j'ai découvert en même temps que moi-même un univers complètement inconnu, jusqu'à ce que je sois arrivé à 11 chansons qui vont constituer ce que sera cet album qui va sortir l'année prochaine. Et j'ai fait mon disque en français, ce qui m'a permis aussi de parler aussi avec les Maliens, à la jeunesse malienne qui maîtrise le français, à la jeunesse ivoirienne qui maîtrise le français, la jeunesse de Lausanne, n'en parlons pas, et la jeunesse du monde francophone. Plus tard, j'aimerais bien faire un disque en espagnol. Je ne parle pas espagnol, mais j'aime beaucoup les sonorités espagnoles. Je pense que ce sera plus facile que le disque en français.
Si je peux rebondir sur les sonorités espagnoles, dans Yen, ça m'a surprise justement d'entendre carrément justement des sons qu'on pourrait attribuer à la culture à l'Espagne. Quoi.
Voilà. Mais c'est là où finalement la musique de film, entre guillemets, nous transporte et fait tomber toutes les barrières. C'est-à-dire qu'on est complètement guidé par une histoire, finalement, qui est une histoire extrêmement universelle, parce que Yen, c'est un conte qui a été articulé ici en Suisse, à Neuchâtel.
Dürrenmatt.
Qui est une œuvre de Friedrich Dürrenmatt. Alors, va savoir. Mon frère qui est si curieux, qui va aller chercher son Afrique au-delà de l'Afrique. Finalement, je pense que...
On rappelle juste que Yen, donc c'est un film de votre frère, Djibril Diop Mambéty, adapté donc de la Yézide de la vieille dame.
Oui, oui, oui. Que Djibril a lu comme un conte africain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a pu aisément transporter le village de Ngoulen dans la visite de vieille dame à Colobane.
Hein, votre lieu d'origine.
Qui est un peu notre endroit où on a grandi. On n'est pas né à Colobane, mais on a grandi à Colobane. Parce qu'on est né au centre-ville. Quand on était petit, je ne sais pas pour quelle raison on a changé d'endroit. Et donc finalement, je me rappelle quand j'ai lu la visite de la vieille dame de Frédéric Dumont, parce que ce qui était intéressant dans Yen, quand Djibril l'a initié, quand on a commencé à travailler, parce que vraiment on travaillait ensemble tout le temps, et moi dans la musique, et aussi essentiellement. Et quand je lisais la pièce de Dürrenmatt, il y avait une guitare qu'on entendait. Et donc, en fait, cette guitare, elle vient de la pièce de Dürrenmatt. Et moi, l'idée de cette guitare, en lisant la pièce, parce qu'un jour, Djibril m'a donné la pièce de Dürrenmatt en me disant, bon, écoute, toi qui n'aimes pas la lecture, quand tu vas commencer à lire cette pièce-là, je parie que tu ne t'arrêteras pas. Et je ne me suis pas arrêté, je l'ai lu du début à la fin. Et j'entendais la guitare dont parle Yann. Et quand on a fait Yen, je ne pensais plus à la guitare de Duran Mott, mais il y avait une guitare dans ma tête, mais qui vient forcément de là. Et je me suis mis à jouer, parce que c'est une guitare que j'ai jouée, je me suis mis à jouer du flamenco. Parce que la dame étant une dame de ce monde, a passé sa vie en dehors des frontières de l'Afrique, connaît toutes ces musiques, parce que dans l'histoire de Djibril, elle revient même avec une servante japonaise. Et donc la dame parle même japonais, parce qu'à un moment donné, sa servante lui lit un poème en japonais sur la mort. Donc cette guitare dont vous faites allusion, vraiment est rentrée dans le récit de Djibril, pas par effraction, c'est parce que Duran Mott en a parlé dans son récit.
Comment justement ces collaborations se sont faites avec les différents réalisateurs? Vous parliez de votre liberté. Dans le cadre d'un film, quelle liberté est-ce que vous avez, ou avec qui est-ce que vous collaborez et vous dites, voilà, là je suis à l'aise?
Ça m'est arrivé une fois avec Djibril. Ça m'est arrivé une deuxième fois avec Djibril, mais presque par procuration, parce que quand j'ai fait la musique de La Petite Vendeuse de Soleil, mon frère n'était plus de ce monde. Mais nous avions déjà parlé des cornemuses qui devaient être dans La Petite Vendeuse de Soleil, parce qu'il y a des cornemuses. Parce que je crois que Djibril, c'est un homme libre. Et il comprend la notion fort à Senghor du rendez-vous, du donner et du recevoir. C'est-à-dire que Djibril a toujours pensé, et moi-même je le pense aussi, que l'Afrique doit s'approprier le monde entier. L'Afrique était sur la terre quand il n'y avait rien d'autre. Nous avons élaboré quelque chose qui est devenu l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. C'est-à-dire que si la vie humaine est vraiment née chez nous, il a fallu qu'il y ait des hommes qui se dressent et qui défendent cette chose venue d'en haut, comme d'ailleurs les Dogons le disent. Quand on plonge un peu dans la représentation de la naissance du monde telle que le définissent les Dogons, mais c'est extraordinaire, c'est au-delà de la poésie, mais c'est d'une rationalité absolument extraordinaire. Et c'est fou. Et nous avons été quand même élevés dans ce monde mystérieux, très profond, où on nous dit souvent, entends ce qu'on ne t'a pas dit, c'est-à-dire va chercher toi-même, écoute, tu entendras, regarde, tu verras. Voilà, donc on a été nourri dans un environnement extraordinairement poétique, mystérieux. Je pense que, et je suis content d'ailleurs qu'aujourd'hui, ma propre fille porte ce mystère, mais qui est partout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de mystère...
Mathilde Diop.
Oui, on parle d'un environnement où il y a tant de choses étonnantes. Parce que l'Afrique, comme disait d'ailleurs un journaliste que j'aime beaucoup, parce que je lui ai volé cette phrase que j'aime beaucoup, une fois j'étais avec lui, c'est Olivier Barlet qui disait que l'Afrique était le fou du monde.
Olivier Barlet qui est ici au festival.
Oui, oui. Et j'ai dit, Olivier, si tu permets, ou alors, donne-moi cette phrase. Je la ressens tellement. Et donc, il a fallu que je rencontre quand même quelqu'un qui ne soit pas africain, qui est peut-être africain dans l'âme, parce qu'on est tout dans l'âme, si on veut. Une question d'ouverture d'esprit. Je veux dire que les choses nous viennent quand on veut qu'ils viennent. Et quand Olivier a dit ça, je crois que c'est la dernière fois qu'il le disait, mais moi je le dis tout le temps, parce que l'Afrique est le fou du monde, parce que l'Afrique est un fou. Pourquoi l'Afrique est un fou? Parce que l'Afrique est audacieuse. L'Afrique se comporte comme un fou, en réalité. Il fait souvent passer la charrue avant les bœufs. Et ça, Mathieu le montre dans son film. Parce que dans un village, il montre une tour qui sort du village et qui dialogue avec le ciel. C'est extraordinaire. Et c'est ça la folie de l'Afrique. Et la petite l'a compris, elle l'a montré. Et dans ce chaos-là, elle arrive à montrer une Afrique, mais qui est vraiment une Afrique, c'est la réalité. Donc le film de Mathieu est un film extrêmement... Au-delà de son aspect, évidemment, il y a beaucoup de créativité, de poésie même. Il y a beaucoup de rationalité. Elle montre vraiment ce chaos harmonieux dans lequel les Africains vivent. Et dans lequel ils sont, dans lequel ils crèvent d'ailleurs. Parce que la ville de Dakar, c'est une des villes les plus polluées du monde. Mais n'empêche que les gens sortent, ils sont habillés, ils sont complètement détachés de... Pas alarmistes du tout. Ah bon, la pollution, elle est où? On ne la voit pas. Mais voilà, c'est cette folie-là qui est aussi une façon de vivre, une façon aussi très philosophique de dire c'est quoi la vie en fait. Rien d'autre que ça, finalement. Être confronté à quelque chose qui de toute façon nous dépasse. Donc à la limite c'est absurde. Et pourquoi prendre des précautions si c'est si absurde? Donc vivons tous les jours. Ce qui fait que les Africains sont incapables de se projeter parce que ça n'existe pas dans leur façon de voir le monde.
Même si on ressent souvent une urgence. Une urgence.
Vous l'avez dit. Le chaos, il est aussi provoqué par l'urgence. L'urgence est là. Parce que nous sommes dans une sorte de schizophrénie aussi. Parce que en tout cas, l'Afrique d'aujourd'hui est schizophrène. Confrontée à beaucoup de choses, confrontée à des religions qui ne sont pas nées là, confrontée à des civilisations qui ne sont pas nées là, confrontée à une évolution post-coloniale, où chaque jour, il faut essayer de comprendre. Moi, j'ai écrit un texte qui m'a amusé, mais je l'ai écrit pour moi. Et c'est quoi? C'est-à-dire que le jour où on a eu notre indépendance, les colons sont partis. Donc, ils sont partis avec l'heure, juste. À Dakar, on n'avait plus l'heure.
Mais on avait le temps.
On avait le temps. Et donc, on a joué avec ça. J'aime bien quand vous dites qu'on avait le temps. On avait le temps. Alors, on a l'impression que ceux qui avaient vraiment l'heure auraient pu vraiment vendre. Vous voulez l'heure, ça coûte tant, etc. Donc on avait une montre, une sorte d'horloge qui se trouvait à la place de l'indépendance, qui surplombait la ville, qui s'appelait le comptoir franco-suisse. Et tout le monde se basait sur cette montre-là pour aller au travail. Mais il se trouve que cette montre-là non plus n'était pas l'heure. C'était absolument extraordinaire. Et donc nous avons vécu dans cette magie. C'est-à-dire que nous avons vécu dans cette folie finalement, dans cette chose, dans cette folie du monde africain. Et il y en a qui l'ont pris, qui ont trouvé beaucoup d'avantages, c'est-à-dire arriver très en retard au travail sans être engueulé parce que personne n'a l'heure de toute façon. D'ailleurs, moi j'ai envie de faire un film sur cette chose-là, qui est très très africaine, que je trouve merveilleux. Et une page de notre histoire contemporaine qui est très très amusante pour vous dire à quel point on prend les choses à la légère. C'est une façon philosophique de vivre à la légère. Parce qu'en réalité, il faut prendre les choses à la légère.
Peut-être une dernière question concernant la suite. Donc, vous allez produire cet album. Apparemment, vous voulez aussi réaliser maintenant un film.
Oui, mais moi, j'ai eu beaucoup de projets de cinéma. Je sais que je ne les réaliserai pas. Je ne les ferai pas parce qu'en fait, Moi, je suis né dans une famille où il y a quelqu'un qui faisait des films qui s'appelait Jirol Diop Mambéty. J'ai pas envie de le concurrencer. J'ai pas envie de faire des films après lui. Je pense qu'il a, baissé le rideau. Il a fait résonner son clap de fin. Pour moi, le cinéma s'est arrêté là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de projets au cinéma et que je ne ferai pas. Parce que il y a eu un clap de fin que Jibril a fait résonner dans mes oreilles. Et c'est formidable comme ça.
On espère en tout cas que votre musique résonnera encore longtemps dans nos oreilles. Waziz Diop, merci beaucoup.
Merci à vous.
Waziz Diop au micro de Mariama pour cette interview sur sa musique, une rétrospective complète de son œuvre, un sujet à retrouver et à réécouter sur notre site django.fm sur les pages du Festival Cinéma d'Afrique, édition 2019. Voici un petit peu de musique avant de se quitter. Un extrait de la bande originale du long métrage Bara, qui signifie travail en français évidemment, un film de Souleymane Cissé, réalisateur malien auquel le Festival Cinéma d'Afrique avait consacré une rétrospective, c'était en 2014 lors de sa 9e édition. Cette chanson Kombe Siban était interprétée par Lamine Kanté sur Radio Django.